Communauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui a lieu demain samedi 25 novembre, je reçois Valérie Duval-Poujol, pasteur et théologienne baptiste, fondatrice de l'association Une place pour elle. Bonjour Valérie Duval-Poujol.
Bonjour.
Bonjour. Et donc, nous sommes ensemble pour parler essentiellement de cette association que vous avez créée en 2018, je crois. Et donc, ce que je vous demande, bien, en premier lieu, c'est comment vous est venue cette idée, non seulement dans la tête, mais aussi dans la création de cette association. Comment ça s'est fait? À partir de quoi pour vous?
Ben voilà, nous sommes la veille de cette journée mondiale de mobilisation. C'est l'ONU qui encourage chacun, chacune à penser aux violences conjugales. Et c'est justement en écoutant le témoignage de victimes que du coup, on s'est dit, ben voilà, il faut pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des moyens de pouvoir faire chuter ces chiffres absolument terribles de la violence conjugale. Ce sont nos sœurs, nos amis, nos compagnes, nos filles, nos voisines et même nos membres d'église hein, qui souffrent du coup de ce fléau. Et donc, eh bien, l'idée, c'était de dire comment briser le tabou. Parce que le propre du tabou, c'est qu'on n'en parle pas. Et là, les violences conjugales, ben, c'est tabou. On n'en parle pas. On pense que ça n'a lieu que chez les autres ou que chez dans certaines catégories. Or, les violences conjugales, c'est partout. C'est tout le monde. Et les chiffres sont en effet absolument effarants. Alors, on connaît les féminicides. Ça, c'est le haut de l'iceberg. Malheureusement, oui, tous les 2 jours et demi dans notre pays, une femme meurt assassinée par son conjoint ou son ex. Mais c'est le haut de l'iceberg. Vous avez en dessous 220 000 femmes qui sont victimes de violences physiques, sexuelles. Et puis, alors, si on élargit, parce que les violences conjugales, ce n'est pas que le physique, ce n'est pas que la femme battue, c'est aussi les violences psychologiques, les violences économiques, les violences spirituelles, l'emprise, etc., les humiliations, les menaces. Alors, à ce moment-là, le chiffre est beaucoup plus affolant. C'est 2 millions de femmes dans notre pays, hein, là, en France, 2 millions de femmes. Et ça veut dire, il ne faut jamais l'oublier, 4 millions d'enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence. Alors, il faut faire quelque chose et se mobiliser ensemble.
Très bien, merci beaucoup pour ce rappel. Et c'est vrai que les chiffres font frémir et doivent nous faire sursauter et agir. Voilà, donc c'est ce qui vous est arrivé, je suppose. Mais peut-être que ça ne date pas de juste il y a quelques jours. Hein. Ça date déjà depuis un moment, je pense. Et aussi votre éducation, votre relation dans la famille, dans la vie d'église aussi sans doute.
Oui, vous avez raison, Christiane. Je suis toujours intéressée à la place des femmes dans nos églises, en particulier protestantes. Et comme traductrice de la Bible, j'ai beaucoup travaillé les textes concernant les femmes de la Bible. Et en donnant des formations chaque semaine en église, eh bien, chaque semaine, il y avait des témoignages de personnes, de femmes qui venaient dire bah oui, c'est vrai que moi aussi, voilà, la violence m'est arrivée. Et c'est vrai que malheureusement, la Bible a été utilisée comme arme de soumission massive pour m'empêcher de me libérer de cette violence-là. Et voilà, vous l'entendez une fois, deux fois, ben voilà, la troisième, vous vous dites, c'est pas un accident. Malheureusement, ça veut dire que c'est réel. Et donc, c'est en effet l'écoute des victimes qui mobilise et de se dire, mais bon, au départ, on se dit, ben, d'autres vont agir. Voilà, je suis déjà engagée dans beaucoup de choses. Et puis finalement, ben, on se rend compte que voilà, personne ne bouge et que ça continue, que ça perdure. Alors du coup, eh bien, comme le dit Pierre Rabhi, on est invité chacun à faire sa part. Il donne l'image du petit colibri voilà, qui essaie d'éteindre l'incendie. Et voilà, c'est vrai que chacun peut être invité là où il est, là où elle est, à faire sa part.
Tout à fait. Donc, vous avez décidé ben, de faire votre part. Voilà. Et donc, ça, nous sommes aussi très reconnaissants, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui vous connaissent et beaucoup de femmes qui souffrent, qui vous en sont reconnaissantes. Ce n'est pas pour cela que vous le faites, bien évidemment. Je m'en doute bien. C'est par la conviction, comme vous venez de nous le dire. Alors, comment s'est mis en place cette association? Comment vous avez fait? Avec qui? Parce que sans doute pas oui. Toute seule non plus.
Non, voilà. Face à cette montagne, du coup, des violences conjugales, on s'est posé la question, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est la priorité? Il y a déjà des centres d'accueil, et c'est très bien. On a beaucoup d'associations, planning familial, CIDF, dans le monde. monde chez les non-chrétiens qui font de l'accompagnement très bien. Et on s'est dit, en fait, l'angle mort, il concerne la prévention, de parler du sujet, de libérer la parole, en particulier dans nos milieux d'église, mais plus largement, le tabou, il est partout, hein, d'accord, on n'en parle pas. Voilà, on parle de crimes passionnels, voilà, on met des mots qui ne correspondent pas du tout, en fait, du coup, à la situation d'emprise, de violence terrible. Donc, on s'est dit, bah, en fait, c'est ça. Là où il faut agir, c'est là où, pour l'instant, il y a très peu, c'est sur la prévention. Et donc, eh bien, j'ai pu voir en Italie une dame qui avait lancé une association de prévention et je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut adapter en l'inculturant en France, une place pour elle. On a trouvé un geste très simple. Il s'agit ici de prendre une pancarte qu'on peut télécharger sur notre site, uneplaceporelle.fr, une pancarte qu'on met sur une chaise dans un lieu public. C'est un magasin, c'est une salle des profs, c'est une église, c'est une salle de mairie et sur ce panneau, il y a écrit une place pour elle. Elle aurait dû être là parmi nous, mais elle n'est pas là parce que du coup, elle est morte sous les coups de son compagnon. Et ici, on en rappelle les chiffres de la violence conjugale et cette pancarte, ce lieu public, les gens la voient et ça libère la parole. Les gens se mettent à parler du coup de violence conjugale. Ah oui, tu sais, eh bien, ta voisine, ta tante, ta grand-mère, et du coup, on fait briser le tabou, on libère la parole. Donc, un geste simple, gratuit, accessible à tous. On a aussi tout un matériel pour pouvoir sensibiliser, aborder la question. Donc, il suffit de venir rendre visite à notre site uneplaceporelle.fr et du coup, voilà, on voudrait pouvoir accompagner là toutes celles et ceux qui ont envie de sensibiliser. Parce qu'évidemment, c'est aussi les hommes. C'est pas qu'un combat là de femmes, c'est vraiment tout le monde ensemble qui doit pouvoir faire quelque chose.
Oui, c'est vrai. Donc, voilà, vous avez nommé votre site qui est très clair et très bien fait et sur lequel on voit bien la façon dont nous pouvons participer, la façon aussi dont s'est mis un peu en place cette création grâce à vous. Et il y a aussi d'autres personnes qui vous entourent, je crois.
Ah oui, ça c'est un travail d'équipe, évidemment. C'est un tel drame, une telle ampleur qu'il faut travailler en équipe. Et donc, j'ai d'abord proposé aux collaboratrices, à mes amis, aux collègues féministes, théologiennes, et puis aussi toutes les personnes intéressées. On a commencé par un premier cercle, on va dire, de protestants, de catholiques, mais c'est évidemment bien plus large. Et là, ici, je tire aussi un grand coup de chapeau aux amis qui travaillent dans les instances gouvernementales qui ont aussi encouragé, du coup, la mise en place de cette association-là, en faisant qu'elle soit pour tout le monde, dans tous les cercles ici. On a aussi fait un appel aux autres religions, qui pour l'instant viennent sur le bout des pieds, mais parce que ça les concerne aussi. Et on sait que malheureusement, être croyante est un facteur aggravant. Alors ça a été la triste découverte en faisant des recherches et en commençant à travailler davantage le sujet. On a écrit des livres, des brochures, etc. Mais de découvrir que malheureusement, les chiffres sont plus importants, plus graves encore, lorsqu'on est croyante, toute religion confondue. Et là, du coup, ça donne une responsabilité. Moi, je suis aussi responsable en situation ecclésiale, vice-présidente de la Fédération protestante. Et là, c'est tous les responsables d'église, les pasteurs, les prêtres, qui doivent s'interroger du coup. C'est un facteur aggravant d'être croyante. Les croyantes, les chrétiennes devraient être du coup celles de la terre. On devrait montrer l'exemple. Et c'est dans les églises que les chiffres sont plus élevés que chez les non-croyantes.
Au niveau des violences toutes confondues, je dirais, faites aux femmes, comme vous l'avez rappelé, c'est pas seulement les violences physiques, mais c'est aussi les violences psychologiques qui sont quelquefois très sournoises, je dirais. C'est-à-dire qu'ils se voient pas à l'extérieur, que les personnes n'osent pas parler du coup parce que elles se disent ça va être complètement incroyable, parce que je veux dire, on va pas me croire, on va pas me croire. Donc, que la personne a peut-être une fonction dans l'église ou une place importante dans l'église, et c'est compliqué de pouvoir parler à ce moment-là. Donc, cette façon.
Vous avez raison, les auteurs de violences sont souvent charmants à l'extérieur de la maison, et c'est une fois la porte fermée que là, il y a un vrai décalage aussi entre l'image donnée à l'extérieur, c'est de l'hypocrisie, et ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ces chiffres plus élevés, alors on va balayer devant notre porte, on va parler de notre religion, là, dans la foi chrétienne. Eh bien, les dernières enquêtes, alors en France, c'est difficile, les enquêtes, parce qu'on n'a pas le droit de faire d'enquête confessionnelle, mais les dernières enquêtes, par exemple, chez nos amis les Anglais, qui sont très très proches de nous, eh bien, c'est une femme sur quatre chrétiennes croyantes qui va à l'église, qui est est victime de violences conjugales là, dans son couple, violences physiques, psychologiques, etc. Donc une sur quatre, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, le problème qu'il faut gérer ensemble, se former pour pouvoir repérer les signes et puis ensuite du coup être au courant des associations qu'il y a autour de soi, quel est le parcours pour une victime. Mais vraiment, là, c'est la responsabilité du coup de nos responsables et de chacun, chacune d'entre nous de savoir que ça existe.
Comment est-ce que une personne qui est en église peut à part être vigilante, mais on peut pas être non plus tout le temps sur le pont, je dirais. Mais bon, quel signe ou comment est-ce qu'on peut remarquer quelque chose? Comment est-ce qu'on peut aider aussi un mot, mais ça peut être difficile effectivement de dire quelque chose comme ça à quelqu'un, même qu'on voit en souffrance, on ne sait pas toujours pourquoi. Donc, est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose là-dessus?
Oui, moi j'encouragerais déjà à lire aussi les ouvrages qu'on a écrits pour être sensibilisés, pour on va dire sortir notre radar, pour être en effet, pour pas tout confondre, pour pas non plus voir le mal partout, mais pour avoir les antennes plus aiguisées et être peut-être davantage en alerte. C'est-à-dire surtout quand il y a une évolution, hein, là ça se voit vraiment, voilà, bah tiens, je la vois plus seule, elle est toujours, son mari est toujours là, donc en fait sans doute une façon de surveiller, je ne la vois plus seule, sa dépression, cette perte de poids, cette solitude, cet isolement, il va beaucoup essayer de l'isoler, donc on la voit beaucoup moins dans les réunions de famille ou dans les réunions d'église ou au travail, etc. On la voit beaucoup moins et du coup, essayer de créer des espaces de sécurité, sûrement pas en la présence du coup de l'auteur de violences conjugales, mais voilà, de créer des espaces de sécurité où on peut lui dire, mais tu sais, est-ce que tu vas bien? Ça peut être aussi poser une question, créer un espace où on peut discuter, ouvrir une porte, tendre une perche, se rendre disponible, lui dire qu'elle peut toujours nous appeler parce que c'est peut-être le jour où elle en aura besoin, de savoir vers qui est-ce qu'elle peut se tourner, de la croire. On n'est pas, nous, l'enquêteur, on n'est pas, nous, le tribunal qui va faire l'enquête ou qui va ensuite ériger un jugement. Notre rôle à nous, là, d'amis, de proches, de connaissances, c'est d'écouter, de croire, ce qui paraît absolument incroyable, mais de recevoir, d'accueillir la parole, là, ici, de la victime. Alors, on l'a mis au féminin. C'est vrai qu'on a aussi des hommes, hein, qui sont victimes. Et ça, c'est encore plus tabou. Ils existent. Mais c'est vrai que la majorité, on va dire, c'est pour ça qu'on est surtout au féminin, parce que la majorité, 98% des cas, c'est au féminin. Voilà.
Oui, oui. Donc, c'est tous ensemble et toutes ensemble que nous pouvons agir. Alors je vous propose d'écouter la musique, la chanson que vous avez justement choisie, qui s'appelle « Ensemble » de Jean-Jacques Goldman. Nous l'écoutons, nous revenons juste après « Ensemble » Valérie Duval-Poujol. Vous écoutez Radio Alliance Plus 103.2, vous pouvez nous écouter en DAB+, et bien sûr aller sur notre site pour écouter en podcast sur radioallianceplus.fr. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, j'espère que vous avez commencé l'émission juste au bon moment, mais sinon vous pourrez nous écouter en podcast. Je suis avec Valérie Duval-Poujol, pasteur, théologienne, baptiste, fondatrice de l'association Une Place pour Elle, et c'est de la violence faite aux femmes dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes qui a lieu samedi 25 novembre. Valérie, nous avons beaucoup parlé de ces possibilités que peut-être nous avons, chacun et chacune, de faire quelque chose. Et alors, à titre individuel, mais à titre, de l'Église, comment est-ce qu'on peut aussi, est-ce que les Églises, d'une manière générale, sont partie prenante maintenant, entendent un peu ce message que vous envoyez, et comment agir en Église, d'une manière peut-être plus officielle ou je ne sais pas.
Oui, c'est vrai que les églises se sont emparées davantage du sujet et que petit à petit, on voit apparaître des initiatives qu'il faut faire connaître. Alors, il y a bien sûr les réponses institutionnelles. Je pense à la Fédération protestante de France qui avait produit un rapport très important sur les violences sexuelles et spirituelles en protestantisme. Mais on a aussi, du coup, comme vous le dites, au niveau de paroisses, hein, des choses qui se font. Je pense à l'accompagnement des victimes avec des lieux d'accueil, hein, des CHRS ou des lieux d'accueil simplement pour que les victimes puissent venir boire le café, discuter de l'entraide. Je pense aux lignes d'écoute qui ont été spécialement mises en œuvre par des unions d'églises, notamment l'Église protestante unie de France. Le CNEF aussi a lancé sa ligne d'écoute. Donc, c'est important aussi de pouvoir avoir des numéros. Donc là, il y a différents numéros du coup qui existent. Du côté de l'Armée du Salut, ils ont pensé aussi à un accompagnement des auteurs de violences. Il faut aussi penser à cette dimension-là. Et du coup, des hommes violents dans le cercle familial, dans le cadre du coup de le juge d'application des peines, etc. Eh bien, il y a tout un travail pour changer du coup de comportement. Mais du côté personnel, il y a aussi toute la formation. On peut se former. Je vous invite à aller sur ouvronslabible.com ou avec Empreinte Formation, un organisme de formation spécialisé sur ces questions. On peut soi-même se former, déjà faire une initiation et puis ensuite on peut monter au niveau supérieur un diplôme universitaire sur l'accompagnement par exemple. On peut aussi sensibiliser. On a parlé d'une place pour elle. Oser le geste de la chaise du coup, le jour du 25 novembre ou dans son entourage pour libérer la parole. Et nous, on met à disposition du coup tout ce matériel tout à fait simplement. Et puis, il y a plusieurs. Alors, si on est dans une église locale, vous demandiez, Christiane, on peut aussi faire signer une charte dans son église locale, dans sa paroisse. Il existe différentes chartes du coup. Eh bien, ici, c'est une église qui se tient du côté des victimes, s'engage contre la violence conjugale. Je pense par exemple à la charte de la Fédération Baptiste qui dit « Notre église affirme que la violence conjugale dans toutes ses formes est inadmissible, injustifiable, irréconciliable avec la foi chrétienne. » Et donc plusieurs unions proposent, je pense à l'UEPAL en Alsace, à Stop Abus, qui proposent du coup comme ça des chartes et plusieurs églises locales. Après par exemple une conférence, nous on se déplace pour faire de la formation, des conférences, eh bien après une après-midi de réflexion sur le sujet, en conseil ou en AG, on votait cette charte et l'ont affichée dans leur église. Donc on voit bien hein, du coup qu'il y a plusieurs possibilités, évidemment de soutenir aussi financièrement. Voilà, on peut aller sur Elo Asso pour soutenir une place pour elle, parce que du coup on a besoin de cette mobilisation et de moyens aussi.
Oui, tout à fait, bien sûr. Les pasteurs ou aumôniers, parce que ça peut être aussi en hôpital, je dirais. La violence est partout. Et du coup, on retrouve des personnes en mal-être ou à l'hôpital psychiatrique ou à l'hôpital tout court, après avoir été battues, évidemment. Donc là, c'est peut-être plus du direct, mais est-ce que les soignants signale aussi ce genre de choses à des pasteurs, aumôniers par exemple. J'y pense oui. Maintenant. Mais oui. Est-ce que ça a été l'occasion quelquefois de pouvoir aider des personnes chrétiennes ou non d'ailleurs, bien sûr.
Alors la difficulté qu'on rencontre, c'est justement au niveau de la formation de nos pasteurs qui, pendant leurs années de théologie, pour ceux qui ont fait des études de théologie, ont pratiquement rien sur le sujet en fait, et du coup sont parfois démunis. Il faut qu'aujourd'hui, quand ils sont en poste, ils osent se former, lire un bon livre et se former aussi sur le sujet, parce qu'ils ont été peu formés. Leur premier réflexe de bon chrétien, c'est d'organiser une médiation entre la victime et son auteur. Or ça, c'est vraiment la dernière des choses à faire. On croit la parole de la victime et ce n'est pas au pasteur d'organiser une médiation là du coup avec l'auteur de la violence. Ce sera encore pire en fait pour la victime après. Donc pas de médiation en ce qui concerne les violences conjugales. Mais évidemment, on ne leur a pas appris et il faut pouvoir les former. Parce qu'on a parlé des facteurs aggravants pour les croyantes. Le fait que la Bible soit instrumentalisée, soit utilisée à tort, il faut pouvoir aussi se préparer et être prêt à corriger ces fausses croyances qui circulent dans nos milieux à ce propos-là. On peut en citer 3 ou 4 de ces fausses croyances bibliques et que du coup les pasteurs doivent aussi combattre, mais en avoir conscience. Eh bien, d'abord sur le pardon, c'est un trésor du christianisme, mais il a parfois été mal compris. On a parfois imposé à la victime un pardon sans repentance et du coup c'est un pardon à bon marché, comme dirait Dietrich Bonhoeffer. Dans nos milieux, on a aussi prêché une soumission de la femme qui a été un terreau aussi, empêchant du coup de poser des limites allant jusqu'au viol conjugal. Eh bien, femme, soyez soumise à vos maris, le corps de la femme ne lui appartient pas, etc. Des versets tordus, mal compris, qui ne veulent pas dire ça, évidemment. Mais là, évidemment, il faut tordre le cou à ces fausses croyances. Je pense aussi à une méfiance dans certains milieux envers tout ce qui concerne le monde, un certain séparatisme. Et donc, on va faire hésiter la victime pour aller porter plainte. On va lui dire de ne pas aller voir un psy, on va lui dire de laver le linge sale en famille, de pas... Et là, évidemment, non, il y a aussi la justice de notre pays et il faut aller accompagner les victimes, les aider à porter plainte. C'est ici une obligation. Et vous avez mentionné en début d'émission aussi la honte, la peur de faire du tort à l'Église si c'est quelqu'un qui est en situation de responsabilité. Ça, c'est aussi en effet un facteur. Si c'est le pasteur, bah oui, malheureusement, ça existe que ce soit le pasteur qui soit violent ici. Et donc, il faut pouvoir être formé et dénoncer en fait en toute sécurité. C'est-à-dire, n'allez pas tout seul, mais faites-vous accompagner d'une association. Regardez autour de vous dans votre quartier quelles sont les associations d'aide aux victimes. Elles sont formées, évidemment. Elles sont formées pour ça. Et on rappelle les numéros très importants, 3919. Là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous pouvez téléphoner, que vous aurez en ligne quelqu'un de spécialisé, de formé, qui vous dira aussi quoi faire. Il ne faut pas forcément être seul face à ça. Là, vous pouvez confier vos doutes, vos questions. Je ne suis pas sûr, il me semble que... Et là, vous serez accompagné par quelqu'un de professionnel. 3919, numéro gratuit, 24-24, 7 jours sur 7.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces rappels. J'avais bien l'intention de vous les faire nommer. Vous les faites toute seule, bien sûr, évidemment. En tout cas, c'est vrai que souvent, les victimes ne veulent pas... sont très frileuses pour aller porter plainte parce que c'est extrêmement difficile psychologiquement et donc c'est effectivement le faire seul, c'est tout un monde. Donc il y a bien sûr à Nîmes des associations que vous pouvez contacter, il y en a plusieurs, je pense à Via Femina Fama par exemple. Nous avons donc sur notre site aussi Radio Alliance Plus une émission sur les associations. Et si vous allez piocher dans ces émissions, vous trouverez plusieurs émissions contre la violence faite aux femmes et comment aider. Il y en a plusieurs sur Nîmes. Donc, c'est bien d'aller y voir aussi. Je fais un peu de pub pour Radio Alliance, mais c'est tout honneur à ce sujet-là. Voilà.
Donc, mais c'est très bien. Et vous avez raison, Christiane, de dire que c'est difficile pour une victime. Et c'est d'ailleurs une des fausses croyances qui circulent. Oh, si vraiment c'était si terrible que ça, il y a longtemps qu'elle l'aurait dit et qu'elle aurait porté plainte. Mais non, justement, ce qu'on oublie, c'est le facteur emprise. Si elle n'a pas parlé, si c'est difficile pour elle, c'est parce qu'elle est sous emprise, elle est sous contrôle. Et il faut vraiment avoir conscience et être formé là-dessus pour comprendre. Elle ne parle pas parce que c'est pas grave. Non, ce qu'elle vit est très grave. Sa vie est en danger, celle de ses enfants, la vie psychique aussi, d'accord. Elle est littéralement étouffée, ou même symboliquement aussi étouffée, les deux. Et du coup, si elle ne parle pas et qu'elle a du mal à porter plainte, c'est parce qu'elle est sous emprise. Il faut comprendre la roue du coup de contrôle, la roue du pouvoir, les différentes phases qu'une victime de violence conjugale traverse. Par exemple, pour n'en citer qu'une, et c'est ce qui rend les choses compliqué, c'est qu'il arrive qu'au cours du cycle de la violence, eh bien, un auteur, lorsqu'il sent qu'il va perdre justement un peu le contrôle ou qu'elle risque de partir ou qu'elle risque de parler, va alors changer totalement et se montrer tout miel. On appelle ça la période de lune de miel. Il va se montrer à nouveau tout charmant et alors du coup, elle se dit « Ah, mais en fait, il a changé » et elle va rester, revenir, retirer sa plainte. Or, le cycle de la violence va reprendre. Il reprend sa violence et ça s'accélère et cette phase alors de rémission de lune de miel devient de plus en plus courte, mais elle lui donne l'illusion, tant qu'elle est dans l'illusion qu'il va changer, alors du coup elle ne parle pas ou elle ne maintient pas sa plainte. Or du coup, s'il n'y a pas de fruit de changement, de repentance, s'il n'accepte pas les conséquences de son comportement, notamment les conséquences là ici judiciaires et de se faire accompagner, soigner, alors en fait il va recommencer. Et donc là, ça peut être le rôle des proches aussi d'accompagner. Malheureusement, une victime de violence fait en moyenne 7 allers retour, c'est-à-dire cette fois où elle essaye de partir et où elle va revenir. Donc ça, c'est très compliqué. Ça n'est pas parce que ça n'est pas dur. C'est très, très dur ce qu'elle traverse. Et c'est un vrai lavage de cerveau, un reformatage, une reprogrammation. Et du coup, il faut pouvoir accompagner et savoir à quel point c'est grave. Quand vous entendez une victime qui partage quelque chose, vous pouvez multiplier par 10 ce qu'elle est en train de vous dire, en fait, pour comprendre vraiment l'ampleur de ce qu'elle traverse.
Il y a aussi par rapport aux croyants, justement, à ce milieu-là, l'idée que l'on peut, comment dire, changer la personne, qu'on a assez de foi, on a assez d'amour, et que c'est ça qui va tout changer. Ça ne veut pas dire que l'amour n'entre pas en ligne de compte, mais du coup, la personne traîne, je pense, encore plus, peut-être que, voilà, et on a appris que, ben là, il faut aimer à tout prix, donc voilà, et on attend, et on attend, et on se sent même coupable d'aller porter plainte, par exemple.
Mais oui, vous avez raison, c'est Jacques Ellul qui parlerait ici de subversion du christianisme, un très beau message d'amour qui en fait a été subverti. C'est très beau le pardon, l'amour, la croyance que Dieu peut changer les choses, ça existe. Mais ici, il y a aussi en fait un facteur de réalité, de réalisme, de dire il n'y a jamais de pardon sans justice. Et donc, il n'y a pas d'amour sans justice. L'amour, c'est d'abord, si je dis je t'aime, c'est d'abord je te respecte. Et il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas ce respect-là. Hein, d'accord ? Donc sinon, on se joue de mots, mais en fait, ça ne correspond pas à la réalité. Et là, la Bible est assez intéressante pour les croyants comme ressource aussi, parce qu'elle nous propose des textes de violence conjugale, en fait, qui nous montrent que ben, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil, et que déjà, voilà, ça nous aide à mettre des mots sur ces mots, en fait. Hein. Je pense à Sarah, qui est vendue par son mari Abraham à Pharaon, je pense à Abigaël, elle est mariée à quelqu'un qui est surnommé la brute. Nabal, ça veut dire la brute. En plus, il est imbibé d'alcool, mais c'est quelqu'un de violent. Je pense à la violence de la polygamie. On nous dit que Jacob aimait Rachel, mais il avait plusieurs épouses, sa sœur et des servantes. Il y a en filigrane vraiment une violence de cette polygamie. Je pense à Agar, renvoyée au désert. Enfin, vous voyez, il y a multitude d'exemples dans la Bible de ces femmes qui sont victimes de violences conjugales sous toutes leurs formes. Finalement, pour nous dire, ben, oui, ça existe, même dans les milieux chrétiens et croyants. Briser ce tabou, hein, ça n'est pas un antidote, le fait d'être croyant. Malheureusement, ça existe aussi dans nos milieux.
Alors, eh bien, nous avons fait un tour, un petit tour, je dirais, de cet aspect de la violence faite aux femmes. Et ce que j'entends, ben, c'est la volonté d'agir, la volonté de se former, la volonté de faire... À notre portée, à nos moyens, selon ce que nous sommes, et en Église, et tous ensemble. Voilà, je crois que...
Oui. Oui, Martin, moi je voudrais terminer avec cette pensée de Martin Luther King,
je vous en prie,
baptiste, et il est prix Nobel de la paix, pasteur baptiste, et justement il dit ça, il dit tout à fait ça, il dit « ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons ». Et je crois que ce serait ça le plus grave pour nous, là, c'est de ne pas nous sentir concernés, alors qu'on a tous les moyens de faire un don, de faire un geste, de faire peut-être le geste de la chaise, mais voilà, de se sentir concernés aussi pour nos sœurs en humanité et celles autour de nous.
Oui, tout à fait. Donc, tous ensemble, comme nous l'avons dit avec Jean-Jacques Goman, et puis avec vous, Valérie, merci beaucoup pour ce travail que vous faites, pour cette approche très particulière et intéressante et très simple. Donc, voilà, à nous de jouer.
Merci, Christiane.
Oui. Merci beaucoup, Valérie.
Alliance Plus.